La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série consacrée à l'anglais Laurence Stern. Dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Chloé Casmarec, Laurence Millet, Laurence Genepin et Élise Leu. Laurence Stern, née en 1713 et mort à l'âge de 54 ans, a vécu deux vies bien opposées. Celle d'abord héritée de son enfance pauvre, ballottée qu'il était au gré de la carrière de son père, militaire peu gradé. Puis c'est l'entrée dans l'église comme planche de salut et un mariage qui l'ennuie. Tout cela durera 40 ans. Vient ensuite la publication de Tristram Shandy et l'avènement d'une vie tout à fait à l'opposé, faite de succès et de mondanité. Cécile Gilbert nous l'a raconté lundi dans une émission à retrouver en podcast. Hier, au cours d'une émission faite de digressions et de parenthèses à l'image de l'écrit de l'écriture de Stern lui-même, nous avons fait un panorama des trois romans de Laurence Stern avec Guy Jouvet qui les a tous traduits. Ces trois livres qui sont le roman politique, Vie et opinion de Tristram Shandy, ainsi que Un voyage sentimental. Enfin, demain, un numéro hors série, nous parlerons de Joyce Carol Oates avec Nancy Houston et Ingrid Astier. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en seconde partie, après la chronique d'Aliette Armel, je recevrai Françoise Davoine pour une lecture psychanalytique de Tristram Shandy. Mais pour commencer, eh bien, nous sommes en compagnie de Madeleine Descargues, professeure de littérature anglaise à l'Université de Valenciennes. Elle a travaillé sur la correspondance de Stern et également sur les sermons de ce pasteur libertin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
À Madame F, Londres, avril 1765. Et je vous prie, madame, de me dire à quoi rime votre lettre de Bath. Quelle raison vous avez, fondée ou parfaitement fumeuse, d'écrire à Londres pour tâcher de découvrir si Tristram Shandy est marié ou non? En revanche, il vous est permis de demander à votre tour, si cela vous chante, ce qui peut bien pousser le même Tristram Shandy, ce parfait homme d'honneur et de probité, à prendre la plume pour répondre à pareille incongruité. Pour ce qui est de la réponse à la première question, chère madame, je dis chère parce que nous commençons à nous connaître un peu, vous devez interroger votre propre conscience, comme je m'en remettrai à la mienne pour répondre à la seconde. Car, en me fondant sur l'observation attentive de l'activité qui s'accomplit en moi, dans cette partie supérieure de l'être où réside la conscience de l'homme de bien, il m'apparaît clairement qu'une créature ayant la stature et la complexion de Tristram Shandy n'est nullement de taille, et n'est d'ailleurs nullement tenue, à se défendre contre les aguicheries d'une si merveilleuse princesse, quand cette ensorceleuse s'y livre avec un art si accompli de la provocation.
De la correspondance de Stern, lue par Michel Derville. Bonjour Madeleine Descargues.
Bonjour.
Vous reconnaissez cette lettre qu'on vient d'entendre?
Oui, enfin c'est une lettre parmi les nombreux, les assez nombreux exemples de banter, c'est-à-dire d'échanges amoureux, mi-amoureux, mi-persifleurs de Stern avec celle qu'il appelle et qu'il revendique le droit d'avoir, les dulcinées qu'il inspire, puisque Stern écrit par ailleurs qu'il n'est jamais meilleur, au fond, que quand il est amoureux.
Qu'il revendique le droit d'avoir.
Oui, c'est-à-dire que... Alors, vous avez dit pasteur libertin. Le mot libertin est parfois très chargé. Le libertinage de Stern, il est un peu relatif. Il est très relatif pour ce qui est du libertinage intellectuel, parce que je pense que Stern est un pasteur latitudinaire, c'est-à-dire un homme du milieu, qui a la foi, aucun problème. Je pense que c'est même cette foi, cette espèce de filet de sécurité qui lui donne une sorte de légèreté ontologique. Pour ce qui est du libertinage amoureux, alors bon, bien sûr, il y a des aventures de Sterne, il y a... Faut un petit peu relativiser les choses. Hein. Sterne est un grave tuberculeux. Il a un désir de vivre, un appétit de vivre extraordinaire. Et bien sûr qu'il y a des aventures de Sterne. Tant mieux pour lui. Comment il dit ? Dans un de ses sermons, les choses que la morale ne réprouve pas tout à fait et que le ciel n'interdit pas complètement. Bon, peut-être qu'on y a droit. Sterne est plus du côté du pardon que du côté de la dénonciation, ce qui en fait un faux libertin.
Oui. Alors, vous les lisez, j'imagine, en anglais, ces lettres, parce qu'elles sont très peu traduites, en réalité, en français.
Oui, j'avais traduit une trentaine à l'époque d'un vieux DEA, mais...
Oui. Alors, de quoi parle-t-il ? À qui écrit-il ?
Alors, les premières lettres, bien sûr, elles sont dans sa vie de pasteur, donc ce sont des lettres très domestiques, des lettres qui rappellent aussi ce qui ponctuait cette vie-là, hein,
Et on se rend compte peut-être justement du tempo, du rythme.
Un enfant mort-né, des lettres qui permettent aussi de se rendre compte qu'il exerçait sa charge de pasteur avec un véritable scrupule, parce qu'il faisait du catéchisme. On voit un petit peu par rapport aux normes de l'époque qu'il n'était pas le dernier.
Alors qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait vraiment d'un pis-aller pour lui que cette carrière ecclésiastique.
Pas vraiment, et c'est en plus c'est un excellent prédicateur, tout au moins tant que sa tuberculose lui permet de monter en chaire et de parler. Et en fait, pour arrondir les fins de mois, souvent on fait appel à lui le dimanche pour remplacer quelqu'un. Donc on a une correspondance des départs qui part comme ça tout doucement. Et puis alors il y a quand il commence à devenir un auteur, il y a les billets doux à Catherine Fourmentel qui sont délicieux, qui est la Jenny de Tristram Shandy, cette indispensable interlocutrice féminine sans laquelle le texte ne pourrait pas prendre de sens. Et puis surtout, il crée sa persona d'auteur. Mmh. Voilà, ce sont des lettres où Sterne, se transforme en Tristram Shandy, se transforme en Yorick. Il joue un peu des deux. Au début de sa carrière, il est plus Tristram, qui est plus égrillard. À la fin, il se réfugie un peu dans le mode sentimental avec Yorick. Mais c'est passionnant de le voir construire.
Donc ce sont des essais aussi, avant Tristram Shandy, qu'il rédige dans ces lettres-là, ou en tous les cas, ça lui permet sans doute de réfléchir et de travailler un petit peu son écriture.
Ah, totalement. Je pense qu'il y a un reflet très intéressant de la création de ce personnage d'auteur et de cette espèce de masque finalement qu'on a besoin de porter quand on s'adresse à un public dans un livre.
Et du lecteur aussi qu'il était, Madeleine Descargues, est-ce qu'il parle de ses contemporains écrivains par exemple ?
Alors la grande frustration, c'est que Sterne se réclame de Don Quichotte, de Rabelais, de Swift. Il dit d'ailleurs qu'il n'est pas allé aussi loin que Swift, qui était un satiriste à la dent très dure et à l'humour très noir et extraordinaire. Il parle très peu des contemporains. Le seul romancier contemporain dont il parle, c'est Smollett, pour se moquer de lui dans Le Voyage sentimental, Smelfungus, celui qui sent partout les trucs qui ne sont pas bons. Et alors que Richardson avait donc publié Pamela, je pense que ça doit être en 1740, et que Fielding avait publié Joseph Andrews, alors qu'il y avait donc un débat très vivant dans le roman britannique, Sterne, lui, il ne parle pas des auteurs contemporains. D'où l'eau au moulin du débat, est-ce que c'est un satiriste, à l'ancienne mode, ou est-ce que c'est un romancier ?
Et alors, quel est votre avis ?
Je pense que c'est plus un romancier, mais bien sûr que Sterne est l'auteur d'un texte hybride, qui est un texte rabelaisien, par certains côtés, ce que... Guy Jouvet a remarquablement rendu, je pense, dans son invention verbale, dans ce côté charnel de la traduction. C'est bien sûr un satiriste qui s'inspire de Swift, mais enfin, il a quand même compris la leçon. S'il dit dans la lettre où il présente Tristram Shandy que, par rapport au roman politique, maintenant, la satire, elle est devenue générale, ben, c'est qu'il a compris qu'entre écrire une satire invendable comme le roman politique et faire un roman... pour ses contemporains, c'était ça qu'il choisissait.
Alors, il y a peut-être quand même un contemporain écrivain dont il parle dans sa correspondance. Je crois qu'il existe une lettre où il manifeste son intention d'envoyer un jeu de volume de Tristram Shandy à Diderot.
Bien sûr. Alors, et, il n'en parle pas qu'à cette occasion-là. Alors, outre qu'ils sont nés la même année, bon, il y a une vraie affinité entre Diderot et Stern. Une affinité lucide, hein. Bon, Stern, par exemple, dans sa correspondance, quand il est à Paris, il écrit à Garrick, puisqu'il aimait beaucoup le théâtre, Shakespeare et l'acteur Garrick, et il écrit à Garrick que, bon, Diderot lui a transmis un texte, le fils naturel pour le théâtre, mais pff, ça sent trop le sermon, dit-il, ça plaira jamais sur la scène. Mais bien sûr, ils s'apprécient mutuellement.
Alors, il y a une raison pour cela, c'est que, évidemment, Jacques le Fataliste de Diderot serait inspiré de Tristram Shandy, et en particulier du couple formé par les personnages de l'oncle Toby et du domestique Lastiqué. Je propose d'entendre un extrait où ces deux protagonistes sont présents.
À propos du dit domestique de mon oncle Toby, je dois ici vous informer que le nom de Lastiqué, sous lequel était connu cet ancien caporal qui avait servi dans la compagnie de mon oncle Toby, n'était pas son vrai nom. Il se nommait en réalité Jacques Bouteiller. Lastiqué était son sobriquet, mais comme il avait eu l'honneur de le recevoir au régiment, mon oncle Toby, à moins qu'il ne soit vraiment très fâché contre lui, ne l'appelait jamais autrement. Tous deux, dans la même branche de la science, étaient des savants d'une envergure comparable. Car le caporal Lastiqué, c'est sous ce nom que je le désignerai désormais, grâce à ce qu'en 4 années il avait su glaner, tant dans les laïus de mon oncle Toby sur les places fortifiées que dans les plans, cartes ou autres papiers de son maître, où il avait l'avantage de pouvoir fureter à tout bout de champ, sans compter ce que, selon le principe de la mécanique des fluides, le califourchon de son maître avait pu lui infuser de sa propre substance dadaïque, et que le caporal, se trouvant lui-même vierge de toute lubie à chevaucher, pouvait donc assimiler, par ce genre de frottement prolongé dont nous avons déjà parlé, tout le fluide possible qui suintait de celui de son maître, le caporal Lastiqué, dis-je, était devenu aussi incollable sur les caractéristiques des différents ouvrages fortifiés que mon oncle Toby lui-même.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Laurence Stern avec vous, Madeleine Descartes. Qu'est-ce que Diderot apprend au fond de Stern et qu'est-ce que ça nous dit de la modernité empruntée aussi par Diderot à cet écrivain anglais et du coup, en fait, qu'elle est dans l'histoire de l'art et plutôt dans l'histoire de la littérature, ce moment constitué par une espèce de cordée entre Stern et Diderot, Madeleine Descargues.
Bon, alors le roman au XVIIIe siècle, c'est un vaste champ d'expérimentation, particulièrement en Angleterre. Et je pense que, bon, on peut reprendre pour peut-être plus de simplicité la formule de Shklovsky, quoi. C'est en détruisant la forme du roman qu'il fait prendre conscience de cette forme, et c'est cette conscience de la forme qu'a le roman qui en constitue le contenu. Bon. Et je crois qu'il y a une filiation directe dans Jacques le Fataliste. Parce que bah, les amours de Jacques, on les attend toujours. Ils commencent et on est toujours frustré de leur développement. De même que les amours de Toby tiennent le lecteur en haleine d'un volume à l'autre de Tristram Shandy. Donc il y a cette structure là, foncière destinée à des gens qui bon, vont pas forcément chercher à s'évader dans une histoire, mais qui vont chercher à comprendre ce qui se passe quand on raconte une histoire.
Mais est-ce que c'est qu'on est en présence de romanciers extrêmement libres, ou est-ce qu'on est en présence de romanciers qui déjà souhaitent réfléchir la nature du roman? Parce que on sait que les livres de Stern ont été tous de grands succès. Or, on peut imaginer que les lecteurs ne sont pas tous passionnés par la question de savoir qu'est-ce qu'un roman. Pour vous, qu'est-ce qui se joue ici?
La question du succès des romans de Stern, c'est une très bonne question, parce que je pense que ces romans ont eu un tel succès à l'époque parce que c'était des objets de mode extraordinaires. C'est-à-dire que le roman de Stern, il vous rappelle tout le temps ce qu'il est comme objet. Mais ça, on avait très peu vu un livre gadget, un livre qui enterre un personnage et qui vous flanque une page noire. Un livre qui vous dit, écoutez, peignez votre maîtresse, et puis écoutez, le mieux, c'est que je vous laisse une page blanche. Un livre qui tout le temps vous rappelle qu'il n'est qu'un livre, qu'il n'est qu'un objet.
Mais c'est surtout la fantaisie qui plaît, c'est l'inattendu.
Bien sûr, et je pense que sur le succès immédiat de Stern, ça, et puis la formule aussi du feuilleton, et puis la drôlerie. La drôlerie de cette conversation chandéenne, je pense que ça a fonctionné remarquablement bien à l'époque.
Alors, ce qui peut faire la différence peut-être entre Diderot et Stern, bon, il y en a évidemment plusieurs, mais c'est peut-être que l'un croit en Dieu, hein, vous venez de l'expliquer, puis on va en parler à l'occasion des sermons, alors que l'autre... Pas du tout. L'autre, pour le coup, c'est un vrai libertin,
bien
non
sûr, Diderot. Oui. Totalement. Je pense que... mais Stern est très... Comment il prêche à Paris. D'ailleurs, c'est une erreur parce que sa voix casse, donc ça se passe pas très bien. Et il rencontre Hume après. Bon, la relation de Stern et des philosophes est très, très délimitée. Il appelle Hume l'infidèle. Alors, il n'est pas du tout de leur bord. En même temps... Ce sont les enfants du siècle, c'est-à-dire que quand même, c'est... Bon, Locke écrit, la conscience, c'est quoi? C'est pas une substance. Socrate endormi et Socrate éveillé sont pas le même homme. Alors, moi, qui je suis là-dedans? Ma conscience se perd quand je dors. Il y a plus de... Oui, c'est une sorte de, en pratique, de fait, un non-essentialisme. Et je pense que la question d'identitaire qui traverse, je me suis dit, qui traverse le voyage sentimental, c'est quand même bien celle-là. Donc, si vous voulez, entre Hume, qui, incomparablement plus rigoureux, Stern, c'est pas un rigoureux, c'est pas un philosophe du tout.
C'est pour ça qu'on l'aime aussi.
Bien sûr. Entre Hume qui dit, finalement, à l'épreuve du doute, finalement, tout ce que nous faisons, c'est de la croyance. Mais après tout, j'ai pas tellement le choix, vaut mieux croire. Et j'accepte, c'est même utile de croire. Voilà. Et Stern qui, lui, croit en Dieu et aussi de cette école de l'Église britannique qui a quand même survécu à une guerre civile et qui s'est reconstruite en étant capable de limiter les querelles dogmatiques et en usant de cette tolérance du lion, du fort, qui dit, bon, écoutez, la raison, on peut faire avec, on va pas se disputer, on va pas refaire une guerre. Voilà.
Alors parlons donc de ces sermons de Laurence Stern. Peut-être, Madeleine Descargues, faut-il d'abord expliquer un petit peu ce que cela signifie littérairement, un sermon à cette époque-là, parce que aujourd'hui, étudier les sermons d'un écrivain qui était aussi prêtre par ailleurs, ça nous paraît presque incongru, mais à l'époque, un sermon, c'est une œuvre littéraire.
Alors, Avant de dire littérairement, moi je dirais socialement, parce que le médium, le grand médium de l'époque, eh bien, c'est le sermon du dimanche et des autres jours que le dimanche, les jours de fête. C'est un événement social, on va
ça
là.
Ça donne une surface aussi à Stern très importante.
Oui,
même si la paroisse est peut-être petite.
Oui, bien sûr, mais quand même, tout le monde y va tous les dimanches. Alors en public captif, on ne fait pas mieux. Puis il ne faut pas oublier quand même qu'en Angleterre, c'est un pays protestant, on apprend à lire dans la Bible. Alors les rapports des gens de cette époque aux histoires de l'Ancien Testament, tous ces micro-récits qu'on trouve dans les sermons, elles sont beaucoup plus vivantes que nous sommes capables de l'imaginer. Donc, socialement, c'est le sermon, ben, écoutez, c'est le grand moment de la semaine. Bien sûr, on est quand même aussi dans une période de sécularisation, c'est-à-dire, il y a des gens qui s'endorment à l'église, ça fait des sujets de sermons, pas pour Stern, pour Swift en l'occurrence. Mm-hmm. Alors, littérairement, les sermons, d'abord, c'était dit oralement, bien sûr. Bon, on fait ce qu'on peut maintenant à partir du sermon écrit. Il y a un style, il y a une tonalité du prédicateur, et on sait que Stern était bon. Mais le sermon, comme œuvre littéraire, c'est quand même un superbe tissu d'emprunt. C'est-à-dire que les sermons que Stern a publiés en utilisant son succès...
45 sermons,
voilà. Il les a composés, bien sûr, mais enfin, il y a des emprunts de Tillotson, de Hall, on se repasse les recettes et les formules. Voilà. Donc, c'est pas des monuments littéraires.
Mmh. Voilà. Et alors, quels sont les sujets? Donc, il y a des titres qui donnent un petit peu une idée des sujets. La médisance.
Oui, les sujets, ce sont les vertus civiques et morales. Ce sont les sujets politiques.
Les miséricordes nationales.
Voilà, absolument.
L'orgueil, l'humilité.
Alors ça, l'orgueil, c'est la bête noire des prédicateurs. C'est ça qui est merveilleux parce que...
Il était quand même assez orgueilleux, lui, justement, Laurent
Stern. Je ne crois pas, non.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il donne comme impression quand on lit Tristram Shandy.
Alors, il joue avec le lecteur.
Il se moque justement de lui-même.
Il joue au chat et à la souris, oui. Je pense que sur le fond, il n'y a pas d'orgueil. On est loin du côté démiurge que ça roge l'écrivain au XIXe siècle. Non, Stern, c'est... Alors, il adore le théâtre. Quand il est à Paris, le prédicateur qu'il adore, c'est le père Clément, parce qu'il monte et il descend de sa chair, c'est extraordinaire. Et lui, il faisait pareil. Alors, ce qu'il adore, c'est les retournements. C'est-à-dire, il va commencer le sermon en donnant l'impression qu'il va contester la parole de la Bible citée. Et en fait, souvent dans ces prédicateurs, il y a un travail pour se mettre à la place du fidèle, pas pour le rappeler à l'ordre, mais se mettre à sa place et dire, oui, c'est vrai, ça, ce serait plus sympathique. Et puis, à la fin, bien sûr, on retourne dans le droit chemin, parce que c'est l'objet d'un sermon. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, est quand même, il préfère le pardon à l'accusation, encore une fois.
C'est un optimiste de manière générale.
C'est un optimiste.
Quelqu'un qui est du côté du oui, pourrait-on dire.
Oui, je pense. J'ai deux lignes là d'un sermon. Ça rappelle un petit peu l'issue d'un chapitre ambigu du voyage sentimental. Partout où ta providence me placera pour éprouver ma vertu, laisse-moi ressentir les émotions qui m'appartiennent à titre d'homme, car c'est toi qui nous as créés, ce n'est pas nous.
Mmh. En quoi est-ce qu'il est en particulier anglican? Est-ce que cette religion-là, spécialement anglaise, se retrouve dans la manière dont il écrit et dit ses sermons?
Complètement. Parce que l'anglicanisme, donc, alors ça remonte à Henri VIII, mais bon, l'anglicanisme connaît, l'Église établie d'Angleterre connaît consolidée par Élisabeth Ier, connaît une période très difficile lors de la Révolution britannique au XVIIe siècle avec la prise de pouvoir des puritains. Et puis, l'Église d'Angleterre qui va se reconstituer après, encore une fois, elle est post-révolutionnaire, il y a des choses qu'elle a comprises. Et elle ne veut pas recommencer. Donc, c'est une Église qui s'ouvre à la raison. Et Stern est bien dans cette esthétique,
Une église centriste, c'est ça?
Une église centriste, absolument. Et encore une fois, tolérante dans la mesure où elle a le pouvoir. Donc, la raison, les sermons clairs, bien construits, pas interminables. Alors, ils n'aiment pas les méthodistes, qui sont des protestants, qui s'adressent plus au peuple. D'ailleurs, Stern n'aime pas les méthodistes, il n'aime pas bien sûr les catholiques, parce que alors les catholiques, justement, aucune liberté de ton. Le docteur Slope, quand le sermon, le fameux sermon dont Schumpeter dit tombe du bouquin sur les fortifications, il dit pas. Ah, je vois bien qu'on a affaire à un protestant. Il est en train de contester les paroles de l'apôtre. Bon, et justement, les anglicans, eux, se revendiquent d'une liberté de pensée protestante et en même temps d'un esprit de mesure qui fait donc très bien la part des choses.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Laurence Sterne avec Madeleine Descargues et donc de ce sermon qui se trouve inséré à l'intérieur de la vie et les opinions de Tristram Shandy. Évidemment, ce collage est aussi extrêmement moderne et puis très drôle. Alors, racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit, Madeleine Descargues.
Il est très intéressant ce sermon parce qu'effectivement, voilà un sermon qui est délivré non pas à un auditoire captif du dimanche, mais qui arrive par hasard dans un roman. Bon, c'est quand même une chute, hein, du haut vers le bas. Je parlais de sécularisation. Il y a quand même un côté profane, là, dans cette arrivée du sermon.
On lui reprochera ça ?
Alors,
parce qu'on sait qu'il y a un petit peu le clergé a brûlé aussi son roman politique.
Il a été mis à l'index, et puis Sterne a été mis à l'index, hein, quand même. Joseph Chani a été mis à l'index après, par l'Église catholique, bien sûr. Alors, ce qu'on lui reprochera surtout, c'est de publier ses sermons en utilisant son pseudonyme de Yorick. Mais donc, ce sermon qui arrive, c'est quand même très intéressant parce qu'il tombe par terre. Et la famille Shandy, qui crée cette magnifique, esprit qu'on retrouve aussi dans Jacques le Fataliste de conversation. Hein, on communique pas, mais on est toujours ensemble et on échange. Et ça part d'un mot d'esprit à l'autre. Et finalement, il y a de la sensibilité, il y a de la tendresse.
C'est une manière de faire du lien, même si on ne s'écoute
voilà,
pas vraiment.
Exactement. Alors, ce sermon, il tombe, mais qui est-ce qui va le lire? Eh bien, le personnage le plus humble et le moins qualifié pour le lire, Lastiquet. Mm-hmm. Très beau, très belle invention de notre traducteur. C'est Lastiquet qui va le lire. Alors, il va le lire avec tellement d'émotion qu'il en pleure parfois parce qu'il pense à son frère, qui a souffert aux mains de l'Inquisition. Et qu'est-ce qui se passe? On a le sermon qui est lu, et puis on a les interruptions. Les bêtises que disent les uns et les autres, les choses auxquelles ils pensent, qui n'ont rien à voir avec le sermon. Ce qui fait que ce sermon, c'est aussi un commentaire didactique qui dit, vous voyez, c'est difficile de faire passer un message. Alors finalement, on écoute tout ça avec nos égoïsmes, et chacun y prend ce qu'il veut. Bon, et puis finalement, donc... À un moment donné, on peut même se demander si... Alors, est-ce que Tristram Shandy, finalement, ça devient un exercice très sérieux sur les difficultés de la communication et les difficultés de tout effort didactique.
Et puis, c'est aussi un morceau de dramaturgie, quasiment une pièce de théâtre.
Hogarth se représente bien Lastiquet de dos. Hein, c'est vraiment subversif à plusieurs égards.
Oui. Et puis, il y a quand même le fond de ce sermon qui... concerne la conscience. Est-ce que vous pensez que Laurence Sterne reprend à son compte ce qui est dit dans ce sermon, à savoir que finalement on peut être coupable même si notre conscience ne nous accuse pas d'être coupable. Autrement dit, on peut suivre la loi, aller à l'église, ne pas commettre de crime ni d'adultère et pourtant être un mauvais homme. Pourquoi, d'après vous, a-t-il choisi ce sujet et pensez-vous qu'il le reprenne à son compte?
Alors, c'était au départ un sermon d'assises, c'est-à-dire un sermon qui était prêché à une occasion civile. C'était à l'occasion des déplacements de juges itinérants pour rendre la justice. Donc, c'était un sujet particulièrement bien choisi. Je pense que Sterne... C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit orgueilleux. Je pense que Sterne n'aime pas du tout la bonne conscience. Le personnage du pharisien, il n'aime pas trop. Et il a un grand plaisir à démonter et à confondre celui qui se croit supérieur aux autres. Voilà, donc il en fait même un art dans ses sermons. Il adore le David qui se comporte comme un homme extrêmement cruel et le prophète Nathan qui le confond en racontant une histoire un petit peu semblable. Bon, et là c'est un peu pareil. N'allez pas voir vous voyez pas la poutre qui est en vous. Oui. Vous voyez la paille chez les autres, vous êtes plein de vous, fier de vous.
Bon. Puis c'est aussi un bon sujet de satire, évidemment. Pour terminer très rapidement, vous avez aussi écrit un article, Madeleine Descarques, sur les sermons et l'idée du bonheur, où vous dites que le bonheur est inaccessible à l'homme. Pour Laurence Stern, pour lui, le bonheur est en Dieu.
Oui, ben c'est même dans la dédicace de son roman. Hein, c'est alors le chandéisme, comme le pantagruélisme, c'est l'art de rire dans la détresse, de rire dans la maladie. Il y a ça aussi chez Stern, et ça peut ajouter quelque chose à cette portion de vie qui nous est donnée. Hein, c'est une allusion à la multiplication des pains. C'est la valeur du fragment. Nous avons des fragments de la vie, mais l'illumination, elle viendra pas de nous.
Merci Madeleine Descarques. On va demander à Aliette Armel ce qu'elle en pense.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Car voici le moment de notre traditionnelle chronique avec vous, Aliette Armel, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste et critique littéraire. Vous animez également des ateliers d'écriture et vous venez donc régulièrement nous donner votre point de vue subjectif sur l'auteur dont on parle ici dans l'émission. Alors, est-ce que les sermons de Stern vous inspirent particulièrement? Est-ce que vous pensez que finalement c'est chez Dieu qu'on trouve le bonheur comme Stern le pense?
J'avais juste noté une citation que j'ai trouvée dans le voyage sentimental auquel je me suis particulièrement intéressée. « J'ai la conviction d'avoir une âme et tous les livres avec lesquels les matérialistes ont emberlucoqué le monde ne pourront jamais me persuader du contraire.
Oui. »
Je crois qu'effectivement, Stern affirmait ce que vous avez dit là.
Alors tout est dit. C'est vrai que c'est le voyage sentimental, vous, qui vous intéresse en particulier.
C'est celui que j'ai lu à l'occasion de cette émission, en fait, parce que j'avais découvert Stern grâce à Cécile Gilbert et son magnifique Stern, l'homme, l'écrivain le plus libre. Et donc, j'avais lu à l'époque La vie et les opinions de Tristram Shandy. Et là, j'ai trouvé cette nouvelle traduction du voyage sentimental. Et effectivement, la thématique du voyage m'intéresse depuis très longtemps, des écrits de voyage. Et donc, je me suis dit, allons voir ce que c'est un écrit qui dynamite l'écrit de voyage. Parce que c'est ça qui m'intéressait depuis le début.
Alors précisément, comment
dynamite-t-il ? J'ai pas du tout été déçue. Ouais. C'est effectivement un voyage à rebours. Un voyage à rebours de toute perspective touristique, un voyage à rebours. Alors, il commence par cataloguer. J'ai déjà été séduite par cette espèce de typologie qu'il fait des voyageurs, un voyageur feignant, voyageur curieux, voyageur menteur, voyageur orgueilleux, voyageur fanfaron, voyageur mélancolique. Alors, je retrouvais pas les catégories habituelles. Et finalement, arrive le voyageur sentimental. C'est lui.
Alors, c'est quoi exactement un voyageur sentimental?
Alors ça, je pense que nous aurons plus d'éclairage par ma voisine de droite tout à l'heure. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'était effectivement que, comme l'a dit Madeleine Descarques tout à l'heure, en citant les émotions qui m'appartiennent à titre d'homme, je demande à Dieu de me les laisser, c'est comme ça qu'il aborde le voyage. Il aborde le voyage à travers des rencontres, alors les monuments, ça lui est complètement égal, donc c'est un anti-voyage pour ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer les gens. Alors évidemment, il y a tout un aspect de libertinage. Évidemment, les petites jeunes filles, les dames qui s'ennuient et tout ça, nous valent des portraits et des dialogues et des attitudes absolument savoureuses. Mais il s'intéresse aussi à un moine, il s'intéresse beaucoup aussi à d'autres types de personnes, contrefaites ou non, des gens de pouvoir qu'il va caricaturer. Il s'intéresse à beaucoup de monde dans ces lieux, qui, et surtout Paris d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est un voyage... Pour moi, qui était en fait un voyage immobile, c'était aussi ça qui était amusant dans cette lecture. C'est que je l'ai lu de Paris.
Oui.
Et donc, ça m'a beaucoup...
Et puis c'est un voyage intérieur aussi pour lui, parce qu'à chaque personne qu'il rencontre, c'est une occasion pour lui de se poser des questions sur lui-même.
Voilà, c'est ce mouvement que nous a décrit Guy Jouvet hier, qui m'a aussi beaucoup intéressée dans l'émission d'hier. Cette façon d'être dans le mouvement vers les autres, mais aussi perpétuellement dans un mouvement qui va revenir vers une introspection de ce qui s'est passé, du sentiment tel qu'il a été vécu, de son comportement et de celui des autres. Et donc, il y a une perpétuelle analyse, auto-analyse qui réagit. Donc, il y a un perpétuel mouvement d'aller-retour. Alors, Guy Jouvet a employé des termes très savants que je n'essaierai pas de répéter. Mais ça m'a vraiment permis de comprendre vraiment ce qui m'avait intéressé dans cet ouvrage.
Alors ce week-end, vous êtes allé également voyager dans Paris pour aller voir l'exposition Raymond Depardon à la Fondation Cartier qui se tient jusqu'au 24 décembre.
Alors,
Il y a deux actualités hein, sur Raymond Depardon.
C'est la Fondation Cartier-Bresson, attention.
Ah pardon, la Fondation Cartier-Bresson.
Oui, non mais bon, la confusion est facile à faire. Donc il y a trois événements de Depardon en ce moment. L'un collectif, avec un certain nombre de photographes, une aventure photographique paysage français à la BNF, mais surtout deux événements personnels très intéressants. Cette exposition à la Fondation Cartier-Bresson, qui est magnifique, qui comporte sur trois étages peu de clichés, mais particulièrement bien choisis autour d'aller-retour de thématiques centrales pour lui, la terre natale, le voyage, la douleur, l'enfermement. Et c'est le thème de l'enfermement qu'on retrouve dans ce magnifique film qui est sorti sur les écrans.
12 jours.
12 jours. 12 jours que l'on passe en compagnie de magistrats et de personnel hospitalier qui font passer des patients hospitalisés sous contrainte devant une commission qui est chargée d'étudier si toutes les conditions sont bien réunies pour les maintenir éventuellement dans cet enfermement ou au contraire pour les faire sortir. Et on leur donne l'occasion du dialogue et on leur donne l'occasion de s'exprimer. Alors oui, la machine administrative est très lourde et contraignante, mais d'un autre côté, il y a un vrai dialogue, il y a une vraie écoute de ces magistrats et ça m'a paru être un document humain indispensable.
C'est donc votre conseil, Aliette Armel, a priori rien à voir avec Stern, quoique, c'est pas sûr du tout. On va parler justement tout de suite avec Françoise Davoine de la question de la folie chez Stern. Merci beaucoup, Aliette Armel, à bientôt.
Merci.
La compagnie des auteurs, nous sommes à présent rejoints par la psychanalyste, sociologue et agrégée de lettres classiques Françoise Davoine, auteure de Comme des fous, folie et trauma dans Tristram Shandy, publié en janvier dernier chez Gallimard dans la collection Connaissance de l'inconscient. Bonjour Françoise Davoine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu ce film 12 jours de Depardon. J'imagine qu'il vous intéresse.
Bien sûr.
Alors on va parler avec vous un peu de folie, mais d'abord j'aimerais parler d'une folie littéraire parce que vous vous êtes beaucoup intéressé à Don Quichotte que vous avez lu, je crois, juste un peu avant de découvrir Laurence Stern. Et il y a évidemment dans le personnage de Don Quichotte une forme de folie qu'on connaît très bien, mais cette folie pour vous elle sert à combattre la mélancolie, pour reprendre le titre du livre que vous avez publié en 2008 aux éditions Stock. Quel lien peut-on faire entre ces deux personnages, Don Quichotte et de Tristram Shandy?
Ils sont explicites. Stern, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu Stern, que je ne connaissais pas avant.
L'un qui vous a donné envie de lire l'autre.
Après avoir travaillé sur Don Quichotte, comme Don Quichotte s'occupe de son père, Cervantes se dit le père de Don Quichotte et il s'occupe de ses traumas de guerre et de son esclavage. En fait, ses hallucinations viennent à inscrire tout ce que Cervantes ne pouvait pas dire. Et il se trouve que Stern a voulu faire une suite. Explicitement, c'est pour ça qu'il ne devait pas aimer Smollett, qui était le traducteur de Don Quichotte. Et
explicitement, vous voulez dire qu'il voulait prendre la suite.
C'est pas seulement l'intertexte. Vous avez parlé de Dulcinée. Il a toujours une Dulcinée en tête. Toby, c'est Don Quichotte. C'est un ancien combattant. C'est un capitaine Toby. Et donc, les références à la guerre sont constantes. Vous l'avez dit. Et puis au trauma de guerre. Et alors, c'est dans la lignée de Cervantes. Mmh.
Mais alors, en quoi ça combat la mélancolie, à la fois Don Quichotte et Laurence Sterne?
Alors, c'est antidépresseur. C'est un livre antidépresseur, il faut le lire
absolument
comme ça. D'ailleurs, il se moque, à un moment donné, de tous les traitements de l'époque, qui sont un peu comme aujourd'hui, tous les opiacés, toutes les benzodiazépines. Il s'en moque d'une façon diafoiresque, car pour lui, le rire et l'écriture, il dit « vivre et écrire, pour moi, c'est la même chose. Si je ne le faisais pas, je me coucherais et j'attendrais la mort. » Enfin, c'est un peu des citations que vous avez dit.
Donc, c'est une façon aussi de combattre la tristesse,
oui,
et la perte d'un proche, par exemple. Vous-même, vous êtes en dialogue
avec Jean-Max,
dans votre livre avec votre mari disparu en 2015.
Et Stern a perdu lui-même entre l'âge de 2 ans et 11 ans, où il a quitté les garnisons, enfin les baraquements militaires, pour aller en Irlande, pour aller en Angleterre à l'école. Il a perdu 4 petits frères et sœurs, mmh, avec lesquels il a joué, avec lesquels il a joué à la guerre, comme font les enfants. Et on va le retrouver dans la thérapie des traumas de guerre de l'oncle Toby. C'est jeu. C'est jeu.
Alors, parce qu'il faut aussi revenir justement un petit peu dans l'histoire personnelle de Laurence Sterne, c'est d'ailleurs le principe de la psychanalyse, mmh, aussi, de remonter le passé et de revenir aux antécédents et aux ancêtres. Le père de Laurence Sterne était un militaire, et vous dites que la guerre, cette violence-là, est très présente chez Sterne, et en particulier dans Tristram Shandy. Où le voit-on et quelles conclusions en tirez-vous?
C'est un enfant de la guerre. Bon, son père part tout le temps en campagne dans les Flandres, contre Louis XIV, donc il entend tout le temps des récits de guerre. Et d'autre part, lui-même, quand il est donc exilé, quitte sa famille à 11 ans pour aller à York, pendant lequel son père meurt. Là aussi, il l'a pas revu depuis ses 11 ans, on l'a dit déjà, à la Jamaïque, il ne verra jamais sa tombe.
Donc c'est un traumatisme aussi, l'arrachement à l'Irlande pour aller vivre en Angleterre, et au moment où il ne voit plus du coup son père.
D'autant qu'il est dans une solitude assez grande. Son oncle aîné, c'est tout à fait la triade européenne, l'aîné a les terres, l'aîné a toute la fortune, le cadet n'a rien, et celui d'après est ecclésiastique. Mais l'oncle aîné ne s'occupe absolument pas de lui, il lui fera même payer l'école où il va, enfin ce qui est sous sa protection, et il va se retrouver dans une solitude totale d'enfant dont il parlera ensuite. Et après, bon, il va à Cambridge, et là, de nouveau, comme vous le disiez, il ne peut pas, avec tous ses diplômes, il ne peut être que pasteur. Et donc il a vécu... Alors, Tristram, le personnage de Tristram est une statue en bois du XIVe siècle qui est devant l'église où se trouvait l'école, et qui est celle d'un mendiant.
Donc c'est ce qui donne le nom de...
Je pense qu'il est la figure. Il est la figure aussi de sa détresse d'enfant. Mmh. Il est comme un enfant complètement abandonné.
Mmh. Donc voilà. La famille, c'est très présent pour vous dans tous les romans de Laurence Sterne.
Alors la famille, elle est très intéressante, puisque bon, ça commence avec sa conception à moitié ratée. Il a de quoi faire. Il est justement assez abandonné par sa mère indifférente et son père qui fait des grandes théories, un encyclopédiste. Mais il a une carrière, on pourrait dire, d'handicapé mental d'ailleurs, que lui prévoit son père. Et le seul qui sait s'occuper de lui, enfin qui fait attention à lui et qui le sauve, c'est l'oncle Toby, c'est le militaire qui lui-même a été traumatisé. On pourrait dire, comme disait Jean-Marc Gaudillard, le trauma par le trauma.
Votre mari.
Voilà. Mais j'insiste sur le fait que c'est véritablement une analyse prénatale.
Alors justement, c'est une analyse prénatale. Écoutons le moment de la naissance, ou plutôt de la conception de Tristram Shandy dans cette archive assez célèbre. Enfin, les lignes en tout cas sont assez célèbres. C'est le tout début de Tristram Shandy.
À mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent, l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'ils faisaient. Et pourquoi pas tous deux? puisque c'était leur commun devoir. S'ils avaient à cet instant dûment pesé le pour et le contre, s'ils s'étaient avisés que de leurs humeurs et dispositions dominantes allaient dépendre non seulement la création d'un être raisonnable, mais peut-être l'heureuse formation de son corps, sa température, son génie, le moule de son esprit et, si douteux que cela leur parut, jusqu'à la fortune de leur maison, s'ils avaient dûment examiné tout cela, je suis persuadé que j'aurais fait dans le monde une toute autre figure et serais apparu au lecteur sous des traits sans doute fort différents de ceux qu'il va voir. Croyez-moi, bonnes gens, la chose n'est pas une bagatelle, comme beaucoup d'entre vous le pensent. Vous n'êtes certes pas sans avoir entendu parler des esprits vitaux, de leur transmission de père en fils, etc., et de bien d'autres merveilles. Eh bien, je vous donne ma parole que le bon sens ou la folie d'un homme, ses succès ou ses mésaventures dans le monde, dépendent pour les 9/10 des mouvements de ses esprits, de leurs activités et des voies où on les engage. Une fois lâchés, bien ou mal, l'affaire est conclue. Les voilà partis pêle-mêle à tous les diables. Foulant et refoulant le même chemin, ils le rendent aussi uni et lisse qu'une allée de jardin. Quand ils s'y sont une fois accoutumés, le démon lui-même ne saurait les en avertir.
Extrait donc des premières lignes, ou presque, de Tristram Shandy, lu par Pascal Mazzotti, Françoise d'Avoine. Qu'en retenez-vous? Quelle analyse tirez-vous de cette conception, de ce moment de la conception qui prend un temps incroyable dans le roman?
C'est surtout une conception à moitié ratée. Hein, il y a le coitus interruptus de son père quand sa mère lui demande...
Et l'horloge.
Oui.
En même temps, c'est compréhensible.
Tout à fait, mais il a failli ne pas être. Et c'est sur le bord de cette inexistence qu'il dit « I wish ». C'est le premier mot. « Je désire ». Alors les psychanalystes sont contents, sauf que en anglais, c'est suivi d'un subjonctif et ça veut dire « j'aurais bien voulu que ça ne soit pas arrivé ».
Donc il aurait préféré ne pas naître, c'est ce qu'il
nous
dit ?
Non, il aurait bien voulu que ses parents s'y prennent autrement. Il voulait bien être, mais il ne voulait pas qu'il soit aussi irresponsable, ce qui vient de être dit dans cet extrait.
Il dit qu'il aurait bien voulu que sa mère et son père aient prêté attention à ce qu'il faisait quand ils l'ont conçu. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, que ses parents n'aient pas prêté attention au moment de sa conception?
Ses parents étaient en pleine dispute, ils se disputaient justement quelque chose qui précède sa naissance. Sa mère ne voulait pas accoucher à la campagne, habiter à la campagne, son père est revenu. Enfin, ils étaient en grande différence. Et donc, il naît au milieu de cette et on ne prête pas attention à lui.
Oui. Il y a l'histoire de la sage-femme aussi.
Oui, alors là aussi, il y a une grande bagarre. La mère veut être accouchée par la sage-femme. Comme ça, si ça se passe mal, ça sera de la faute du mari qui ne veut pas qu'elle aille accoucher chez le grand spécialiste à Londres. Oui. Et lui tient au docteur Slope, dont vous avez parlé, qui vient de, c'est l'invention du forceps vient d'arriver à ce moment-là.
Oui. Mais alors le père a peur que si il y a un problème dans le village, lui en veuille finalement et qu'on mette ça sur le compte d'une forme de quoi, alors de pingrerie.
Voilà.
Donc il y a en effet au moment de la conception et après de la naissance de Tristram Shandy beaucoup d'impureté.
Surtout, il va de catastrophe en catastrophe. Son nez, il naît sous cyanosé, son nez est cassé par le forceps. Ce sont prénoms que son père essaye, il est très lacanien, de rattraper ça sur le plan symbolique. Et donc lui donne un très beau nom qui est écorché. Ensuite, alors ça c'est avec plein d'astérix. Parce que tout le refoulement sexuel se dit sous les astérisques. La servante lui fait faire pipi par une fenêtre à guillotine qui tombe sur son astérisque. Et alors toute la question de la puissance sexuelle est à l'œuvre, et littéraire d'ailleurs, ça va avec. Est en filigrane aussi bien pour l'oncle Toby qui a été blessé à l'aine. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut pas, est-ce qu'il en a, est-ce qu'il en a pas. Et aussi Tristram qui manque d'être... Et c'est la rumeur dans le canton, l'héritier des Shandy, astérisque.
Beaucoup d'astérisques. Donc c'est un roman qui est un roman de la scène primitive, qui est au-delà de ce qu'on peut lire à la surface des mots. Est-ce que vous diriez que vous avez fait une psychanalyse du texte de Laurence Sterne, ou est-ce qu'au contraire, c'est le texte qui vous a psychanalysé.
C'est plutôt la deuxième.
Alors expliquez-nous comment c'est possible.
Écoutez,
de se faire
alors,
psychanalyser
je par suis un très naïve, je suis très bon public. Et lorsqu'il s'adresse à moi, madame, je le prends pour moi. Et donc, ce transfert au lecteur, parce que c'est ça le mot de la psychanalyse, le transfert là-dedans marche à fond, que ce soit entre les personnages, entre Toby et Trim, enfin ce qu'on appelle la Stiquée, mais eh bien, c'est en permanence l'autre qui permet de parler, l'autre qui permet de penser. Et donc, le lecteur fait partie de ça. Et quand il me dit, madame, vous n'avez pas bien lu le dernier chapitre, je m'y reporte. Il me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, et il me répond... Je reviens bredouille et il me dit « Voici Karim, My Fair Lady ». Et ça vient de là, la comédie musicale et le roman et le, la pièce de Shaw vient de cette phrase-là. Mmh. Alors, vous parlez de la scène primitive, là elle est très explicite. Hein. Le lecteur, on tient la chandelle.
Oui.
On est en plein dedans.
On est là, oui.
On
regarde les astérisques.
Ouais, absolument. Et... Dans le Winnicott, enfin les analystes anglais se sont tous inspirés de, enfin pas tous, mais les plus grands, enfin ceux que j'aime bien, en tout cas Winnicott et Bion.
Oui. Ah donc il y a une tradition, peut-être en Angleterre plus qu'en France, de lire avec les lunettes du psychanalyste ces textes-là.
Même pas avec les lunettes de soi. Et justement dans ce qui nous fait découvrir de nous-mêmes. Mm.
Est-ce que vous pouvez être plus spécifique ou c'est difficile pour vous de dire ce qu'il vous a fait découvrir?
Moi, je suis née aussi. J'aurais bien voulu que mes parents. Je suis née en 43. Ma mère était en prison pendant sa grossesse. Elle savait même pas qu'elle était enceinte de moi. Donc, j'aurais pu dire. Mes parents auraient dû réfléchir à deux fois avant de me concevoir dans cette période-là. En plus, mon dada, c'est comme Toby. Je suis née dans la guerre, un peu comme Obélix tombe dans le chaudron. Donc, je l'ai lu à travers ce prisme de cette guerre que les anciens combattants répètent, ressassent, justement pour pouvoir l'inscrire et que quelqu'un d'autre puisse l'écrire. Mmh. C'est ce qu'il fait. Et donc, j'ai été complètement happée par cette, ce transfert, oui, entre ce qui arrive à l'enfant, à un moment où il n'est pas attendu, il n'est pas tenu, comme dit Winnicott, il n'y a pas de holding, et ce qui arrive au blessé, qui est écrabouillé par une pierre à Namur, à l'aine, et donc qui est comme un bébé aussi sur le sol, qui gît, et qui va mettre 4 ans à s'en remettre, et encore, il va s'en remettre par une méthode que je conseille à tous les analystes qui viennent me demander conseil, qui est, alors je peux vous la raconter si
oui,
vous voulez.
Oui, bien sûr, allez-y.
Donc Toby est chez son frère pendant 4 ans. Walter, en bon psychanalyste, il dit il faut qu'il parle. Alors il prend les visiteurs, il l'emmène à son chevet. Et plus il parle, parce que ces gens-là parlent comme des analystes neutres ou non concernés, alors je vous écoute. Silence. Et donc, plus il parle, plus il s'embrouille. Plus le chaos de la guerre devient présent, c'est une reviviscence traumatique. Mmh. Donc, plus sa blessure empire, c'est psychosomatique, et ça, c'est très bien décrit, parce que la blessure est le seul témoin de la bataille. C'est la seule qui parle. Et puis, un jour, Trim et lui ont une idée. Et il va chercher, il lui demande à Trim d'aller chercher une carte qu'on met qu'on placarde de la citadelle de Namur, et là, il peut dire « j'ai été blessé », non pas en désignant son aine, mais là, à l'extérieur.
C'est assez fascinant, cette espèce de préscience, justement, de ce que peut être la thérapie
qu'on trouve dans
Stern.
Mais vous savez, la thérapie de la folie et des traumas est aussi vieille que la guerre.
Il était fou d'ailleurs pour vous, il était un petit
peu fou. Non, pour moi la folie, c'est
avec des guillemets toujours, hein, le mot folie bien sûr.
Non, moi je vois des personnes, elles disent je suis folle, c'est pas de problème. Mais oui, parce qu'on fait pas trop attention aux mots, pourquoi? Mais la folie, c'est d'abord un combat contre la perversion, contre le déni, contre l'effacement des traces. Il y a toujours aussi, c'est le même champ que le trauma, il faut arriver à dire une vérité qui a été fracassée. Et donc, c'est pourquoi le serment vient à point nommé. Et donc, les fous littéraires, le théâtre des fous au 14e, au 15e, qu'il connaissait très bien, sont dans sa veine. Voilà.
«
On a mis quelques grosses caisses pour souligner la force de votre propos, Françoise d'Avoine. C'est une erreur. Merci beaucoup d'être venue. Je renvoie nos auditeurs à votre essai « Comme des fous, folie et trauma » dans Tristram Shandy. C'est chez Gallimard dans la collection Connaissance de l'inconscient. Et c'est déjà la fin, figurez-vous, de notre série sur Laurence Sterne, parce que demain nous vous proposons d'entendre un épisode consacré à Joyce Carol Oates. Et c'est le deuxième volet d'une mini-série en deux épisodes, dont le premier est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver en podcast à la date du 18 octobre dernier. Nous serons donc demain en compagnie de Nancy Houston et Ingrid Astier. Tout de suite la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Hervé Prudhon. Des mots anciens provenus d'un spectacle « Comme des malades » que nous avions fait ensemble à Caen-Hérouville et puis au Théâtre de la Bastille. Rescapé d'une opération, Hervé écrivait « Je n'ai jamais vécu très loin, faut-il le dire, de la folie, si là c'est facile façon de dire non, de dire oui, de donner des leçons. » Hervé Prudhon, HP. « Jamais vécu les pieds sur terre et déjà un pied dans la tombe, un pied de nez, un pied de veau, un verre à pied et le nez dans le verre. Jamais vécu bien dans mon cul. Je n'ai jamais connu de raison de vivre ni de mourir, juste émotion, folie, horizon qui s'évanouissent et rire de mille et une façons de soi. » Plus tard devant la maladie, le 7 septembre 17, avant de mourir, quelques jours avant, Hervé écrit « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie aujourd'hui moins qu'un mâle de chien qui cherche l'air au fond d'un puits bouché, yeux révulsés, griffant des parois imaginaires, à bout de force et de nerfs, ayant perdu toutes ses fonctions jusqu'à l'intime et légitime anxiété, je frissonne en été, ou bien on étrangle mon âme. » Le 7 septembre 17. Le ciel est couleur Dieu mort. C'est drôle, Dieu mort. On devrait dire deuil mort. Deuil mort n'a pas de sens. On meurt le jour de sa naissance. La mort n'existe pas. Elle n'est rien, ni personne. On ne la voit pas. Elle n'est ni feu, ni flamme, ni cendre, ni nuage. On n'y voit pas les âmes voltiger dans les airs. Elle n'est pas l'air, elle n'a pas l'air, ni l'heure. Elle n'est pas même ailleurs. Elle n'a même pas le temps. Le temps est éternel, et moi qui serai orphelin de vivre, il sera maternel. La mort ne peut pas suivre. Pense au vent, pense-y, tant que tu es vivant. Pense à la pluie, pense au plaisir. Pense à la plaie qui se referme. Pense bien, pense au mal. Pense à corps et à cri. Pense à tort et à travers. Pense fort, pense enivre. Pense à la mort tant que tu vis. Pense à la vie, pense-y. Pense avec poésie. Pense en douce, danse en ours. Ici, comme adressé à ses enfants, à son amour, chante-moi une petite chanson à voix très basse dans le soir, à voix très douce dans le chagrin. Chante-moi au revoir, comme si j'allais prendre le train, et secoue le mouchoir dans un nuage de cendres qui prend la forme de mon ombre. Comme un cauchemar du malade, à chaque clin d'œil, la lumière s'éteignait, parce qu'elle avait sous la paupière des ampoules de 70 watts. Je ne sais pas si elle avait un tic, ou si elle me lançait des œillades. Je ne sais pas non plus si l'ampoule a pété, ou si c'est moi qui ai disjoncté. On ne ferait pas de portrait d'Hervé sans ce poème. Boire me fait prendre l'air, prendre le large, prendre le temps, poser mon congé. Et si je finis la bouteille, c'est par amour du vide, et parce que j'aime le goût de boire.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes d'Hervé Prudhon.